La revue de presse Claude Askolovitch.
France Inter. Le 7-10.
Et on parle, Claude, d'E.T.
E.T., l'extraterrestre. E.T. appelle Limoges, lisez-vous, à la une de La Montagne, édition de Corrèze, cousine du populaire du centre qui lui titre sur un congrès de troisième type. De référence, Spielberg, pour un congrès qui se tient donc à Limoges, au zénith cette fin de semaine, où l'on va préparer l'arrivée des extraterrestres et discuter des souhaitables amitiés humano-célestes. On attend 2200 personnes qui chacune auront payé 150 euros pour s'installer dans des gradins baptisé Sirius Regulus Polaris Antares Acturus. Cela ne va pas troubler l'ordre public, mais des chasseurs de sectes redoutent que tout un tas de chasseurs d'âmes, se mêlent à la foule et abusent de sa naïveté. Vous la retrouvez, Limoges, dans la Charente libre, on en a parlé à 6h30. Car des marcheurs militants veulent aussi la retrouver, ils arpentent une voie de chemin de fer abandonnée pour ranimer le train Angoulême-Limoges, supprimé depuis 2018. Décidément, j'imagine, E.T. prenant le train vers l'ouest. L'hebdomadaire La Vie, lui, nous parle de rencontres simplement entre nous, humains, que la technologie empêche. En 1992, le sociologue prophète Philippe Breton l'avait dit, une société fortement communicante est faiblement rencontrante. Et devant nos écrans, nous voilà à la fois dépendants de l'autre virtuel, mais phobiques parfois à sa présence physique, et pourtant, nous nous manquons. En Seine-et-Marne, à Seine-Port, le maire veut interdire les portables devant les sorties des écoles pour que les parents se rencontrent. Et au-delà de l'école, moi j'y suis tous les jours à 16h30, La Vie nous confie au supermarché, au jardin public, à des recycleries, à des bars où l'on s'apprivoise en chuchotant au carnaval. Tiens, celui de Bailleul dans les Flandres fait se rencontrer les gens depuis 1853. Son apothéose, c'est une messe bariolée où l'on vient déguisé entendre un prêtre nous rappeler ces mots de Jésus. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, rencontrons-nous. Je me suis demandé, cela dit, que faire de la parole du Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, quand dans le Figaro, je lis la brillante Eugénie Bastier rendant compte d'un livre d'une philosophe britannique, Kathleen Stock, au titre madonesque « Material Girl », qui lit « Je pulvérise la théorie du genre », laquelle théorie prétendrait que la condition de femme ne serait qu'un ressenti. Et non. Le même Figaro nous apprend que chez les mammifères, la femelle est souvent plus lourde que le mâle, sauf si le mâle a besoin d'être balèze pour chasser ses rivaux. Le Figaro encore m'invite, c'est tentant, à des pèlerinages en France sur le chemin de Marie-Madeleine, que Jésus aima et sauva, et dont les reliques reposent à Saint-Maximin dans le Var. La route est superbe. Regardez, lisez, rencontrez.
On parle aussi d'un livre, justement.
Que prépare Jordan Bardella, et dont Le Monde nous raconte la préparation, et on lit que parmi ceux qui accompagnent ou ont accompagné le président du Rassemblement National, se trouve un nom familier de nos antennes du service public, Jean-François Achilly, qui aurait aidé Bardella à rassembler ses souvenirs. On mesure alors les normes mouvantes, les nouvelles acceptations. Transparence obligée. Moi-même, j'ai dans d'autres vies accompagné des livres de politique, Martine Aubry, Manuel Valls, Éric Besson. Je ne sais pas si mes transgressions étaient souhaitables, que puis-je penser de celles d'aujourd'hui ? J'avais aussi, transparence encore, en 2007, pour un livre, interrogé Rachida Dati, alors nouvelle ministre de la Justice, et j'y ai repensé, lisant dans l'Obs des révélations sur ses prospérités, ses liens encore inconnus avec un homme d'affaires, des émoluments, des soupçons d'un travail de lobbyiste au Parlement européen, les envies avortées d'un europarlementaire allemand d'ouvrir contre elle une enquête judiciaire. La Provence, elle, fait sa une sur Jean-Noël Guérini, qui fut le patron politique des Bouches-du-Rhône et du socialisme local, et qui va purger une peine sous bracelet électronique, sa condamnation ayant été rendue définitive par la Cour de cassation. Tiens, lui, je l'avais oublié.
On parle enfin de tendresse, Claude.
Qu'on a chanté lundi dernier, quelle douce faiblesse, quel joli sentiment pour Giovanni, dont les cheveux bouclés et longs, la barbe douce, les dents immenses scintillent dans Libération, autour d'un article scintillant lui-même, signé Éric Favreau, scintillant aussi de larmes, car c'était au cimetière de Thiers qu'on saluait Giovanni, dont le corps était trop imposant pour notre monde. C'est un camion et sa grue pivotante qui ont amené le cercueil trop lourd pour les bras des humains, qui contenait une dépouille de 280 kilos, trop large pour être incinérée, trop massive pour les normes du carré des indigents. Et près de ce cercueil, on parlait et chantait sous la pluie, écrit Favreau, des visages de tous les jours, paumés comme non paumés, sans domicile fixe, comme avec domicile fixe, pour Giovanni, qui, écrit encore Favreau, n'aurait jamais dû mourir le 17 février, au pied du mur des urgences de l'hôpital Cochin, après avoir passé une nuit dehors quasi nu, incapable de bouger parce que les urgences l'avaient mis dehors. Sa fin, lisez Libé, n'annule pas sa beauté. Sur le site de West France, vous lisez le corps des femmes sportives, objet de désir ou d'opprobre en fonction des pays et des époques, masqué parfois au contraire sexualisé. Vous lisez notre grande joueuse de tennis Suzanne Lenglen, splendide, qui libéra ses sœurs en libérant sa foulée car elle raccourcissait ses jupes. Et vous lisez l'Australienne Cathy Freeman, championne olympique du 400 mètres chez elle à Sydney en 2000, dans une combinaison qui couvrait tout son corps. Elle se sentait plus rapide dans sa bulle, c'était une solution. Dans l'équipe, lisez Frédéric Hans, entraîneur de football qui n'entraîne plus car il a tout quitté pour partir à l'île Maurice, espérant reconquérir le droit d'être dans la vie de sa fille Jade que son ex-compagne a emmenée. Dans le Progrès, j'en termine, on parle d'abricots, ce que promettait Yvon Montagnier, déporté français au camp nazi de Neuengamme, à un camarade de misère qu'il voulait inviter aux cueillettes après-guerre quand la vie reviendrait. Yvon n'a jamais tenu sa promesse car il est mort avant ses 20 ans le 7 avril 45. Et dans un de ces miracles que l'histoire autorise, la montre qu'on lui avait prise à son arrivée au camp a été retrouvée et remise à sa famille. C'était hier, elle s'était arrêtée à 11h28.
Merci Claude pour cette revue de presse.